Bien, bah, merci beaucoup. Et merci. Donc, nous allons passer maintenant la parole à Catherine Audard, qui est professeure à la London School of Economics et qui va prononcer une conférence intitulée « Repenser la liberté libérale, l'ontologie sociale de Rawls et la priorité de la liberté ».
Bien, j'espère que vous m'entendez. Je ne parle pas très fort, mais est-ce que... Sinon, on peut mettre le micro. Oui, est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, je pense, oui. Voilà, ben, je remercie les organisatrices de leur invitation. Il se trouve que j'ai bien connu Isa Berlin quand, à Oxford, et c'était un ami, et donc ça fait très plaisir de lui rendre un peu hommage, grâce à nos critiques, bien sûr, hein, aujourd'hui. C'était quelqu'un d'un charme extraordinaire, d'une vivacité et d'une passion intellectuelle tout à fait exceptionnelle, et qui a eu une très grande influence sur la pensée britannique comme un outsider, puisque bien sûr ses origines intellectuelles sont continentales, n'ont rien à voir avec le monde britannique, et ce qu'il a apporté était très très enrichissant, d'où son influence considérable. Un de mes collègues me disait l'autre jour nous avons vécu dans l'ombre de Berlin jusqu'au moment où nous avons continué à vivre dans l'ombre de John Rawls. Donc, effectivement, je prends le relais pour essayer de voir comment un autre penseur du libéralisme a envisagé le débat berlinien entre liberté négative et liberté positive. Alors bien sûr, Rawls se situe tout à fait dans la ligne des penseurs italiens dont nous venons de parler, c'est-à-dire d'un libéralisme social. Comment faire entrer la justice sociale dans l'équation libérale? Voilà la question. Comment, dit Rawls, accorder la place qui convient aux valeurs sociales sans sacrifier ni la liberté ni l'intégrité de la personne? C'est le débat qui était celui des nouveaux libéraux de la fin du 19e siècle, début 20e, T.H. Green qui a été mentionné, et Hobhouse, etc., qui ont eu donc une très grande influence sur toute la pensée du Labour également, puisque dans le monde britannique, Labour et libéraux ont quand même été très, très proches pendant longtemps. Ils vont peut-être le redevenir d'ailleurs avec les prochaines élections, quand une nouvelle coalition sera au pouvoir. Donc, et on a mentionné bien sûr le progressisme américain, John Dewey, donc là c'était absolument pertinent. Alors, cet effort, enfin cette tentative qui était tout à fait en progrès en quelque sorte, a été bien sûr la montée des extrémismes a coupé court à tout cela. Donc, le moment où écrit Berlin, c'est le moment de la guerre froide et de l'échec d'une synthèse entre préoccupation sociale, justice sociale et protection de la liberté individuelle. Alors, dans cet article de 1958, qui a eu tellement de retentissement, Berlin fait des choses, enfin entreprend des choses très contradictoires, et cet article est d'une confusion extraordinaire. Je pense que c'est à cause de cela qu'il a eu tellement de succès, parce qu'il y a tellement de choses. Alors moi, ma lecture de Berlin est bien sûr un peu biaisée, mais je dirais qu'il fait trois choses, et je ne sais pas s'il réussit à atteindre ses objectifs. Il fait trois choses. Premièrement, il a l'air de reprendre la fameuse distinction de la liberté des anciens et de la liberté des modernes. Or, cette distinction, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais elle est très précise. C'est la distinction entre les libertés personnelles, ce qu'on appelle en anglais « civil liberties », protection de la personne, liberté de conscience, liberté de pensée, etc., et les libertés politiques, c'est-à-dire droit d'association, participation à la vie politique, droit aux élections, etc., de former un parti. Bon. Eh bien, cette distinction, elle est claire, elle est absolument structurante pour l'histoire du libéralisme, puisque avec le tournant de la liberté des modernes, les libertés politiques deviennent des instruments, sont perçues comme des instruments nécessaires à la protection de la personne. Et ce qui est sacré, le terme a été utilisé, c'était très juste, c'est bien sûr la protection de la personne, c'est là la finalité de la pensée libérale. Comment la protéger? Eh bien, par l'intermédiaire, bien sûr, des institutions politiques. Donc, c'est cette articulation classique qui est centrale. Mais à cela, Berlin va ajouter beaucoup, bien d'autres choses. Deuxième chose, eh bien sûr, ces libertés politiques, est-ce qu'on peut les rendre plus lourdes en leur ajoutant les droits sociaux et économiques? Voilà. Comment accrocher le wagon de la justice sociale à la liberté, aux libertés politiques qu'il appelle positives? Bon. Qui sont des moyens, effectivement, de liberté positive comme moyen de réalisation de la personne, de la protection de la personne et de sa sphère privée. Alors, ajouter la question sociale, c'est ce que va faire Hayek, enfin la discussion de Hayek également, etc., et celle de Rawls, c'est un tout autre problème. Hein, c'est vraiment, c'est l'articulation du politique et du socio-économique. Berlin essaie de faire cela en accrochant ce wagon supplémentaire. Et puis, troisième ambition, encore plus complexe et très difficile à réaliser, il y a une ambition philosophique derrière, c'est-à-dire une critique de la raison. Tout le texte de Berlin est bien sûr une critique du rationalisme moniste, une critique, enfin, il va jusqu'à presque dire que Kant est responsable du totalitarisme, je caricature, mais enfin il y a de ça, hein, dans le texte lui-même, vous l'avez vu, c'est extraordinaire. Donc il essaye de faire une défense du pluralisme, une défense métaphysique du pluralisme, qui soutiendrait les libertés personnelles et l'articulation avec les libertés politiques. Donc il fait quelque chose qui est très ambitieux, trouver un lien entre une conception métaphysique de la liberté et des conceptions, disons, politiques et juridiques de la liberté. Voilà. Alors, donc, autour de la thèse que vous connaissez bien du pluralisme des valeurs, qui est une thèse métaphysique, presque existentialiste, on pourrait dire, si on la prend au pied de la lettre. Voilà. Alors, bien sûr, ce qui ressort du texte de Berlin, c'est l'impossibilité d'ajouter ce wagon de la justice sociale à la défense des libertés fondamentales. Et justement, au contraire, l'invitation à la modestie. Il dit « la liberté est la liberté, ce n'est ni l'égalité, ni l'équité, ni la justice. C'est une confusion de valeurs qui nous conduit à soutenir que même si ma liberté libérale individuelle devait être sacrifiée, une autre forme de liberté, sociale ou économique, en serait augmentée. En conséquence, la défense de la liberté pour le libéralisme doit rester négative, se limiter à la défense à la protection à l'égard des interférences illégitimes et abusives. Donc la sagesse pessimiste, réaliste de Berlin invite à reconnaître que, je cite, les fins humaines sont multiples et que toutes ne sont pas pleinement commensurables. Donc il faut renoncer aux ambitions maximales de la justice sociale pour protéger un minimum de liberté individuelle. Voilà en gros le type d'argumentation. Alors, la position de Rawls est évidemment aux antipodes, puisque pour lui, il s'agit de surmonter les conflits intellectuels, conceptuels à l'intérieur du libéralisme, en particulier le conflit entre liberté des modernes, liberté des anciens. Il n'emploie pas les termes de liberté négative et de liberté positive. Il les met de côté dans la section de la théorie de la justice où il parle de la liberté, en disant « moi, ce qui m'intéresse, ce sont les libertés ». Les droits et les libertés, l'articulation classique que je mentionnais au début entre liberté personnelle ou subjective, comme disent les Allemands, et liberté politique. Et donc lui, ce qui l'intéresse, c'est d'accrocher aux libertés politiques, bien sûr, les droits sociaux et économiques. Voilà. Alors, la défense, d'autre part, si vous voulez, une défense purement négative, alors là je prends le terme négatif peut-être dans un autre sens, mais un sens qui est inspiré de Karl Popper quand il parle d'utilitarisme négatif. Vous savez, quand Popper dit on ne peut certainement pas faire le bonheur de l'humanité, mais on peut au moins lutter contre la souffrance. Bon, eh bien, prenons le terme liberté négative comme on ne peut pas réaliser la liberté, mais on peut au moins lutter contre les obstacles. Voilà. Donc, au contraire, cette défense négative pour Rawls est insuffisante, totalement insuffisante, face justement aux extrémismes, aux fascistes, totalitaristes, etc., dont il a été lui aussi le témoin, bien sûr. Et il faut construire une défense de la liberté beaucoup plus vigoureuse, qui réussirait à unifier les aspects justement individuels, laissant tomber le vocabulaire négatif-positif, qui est une source de confusion, les aspects individuels et les aspects collectifs ou politiques, avec ses dimensions sociales et économiques. Mais cela n'est possible qu'au prix d'une mutation de la pensée libérale. Et ce que Rawls va opérer, c'est cette double mutation dont je vais parler. Donc, d'un côté, en montrant que les fondements éthiques du libéralisme se trouvent dans une morale déontologique et non pas une morale théologique. Et d'autre part, alors ça c'est moins visible, et c'est pour ça que j'en parlerai davantage, au prix aussi d'une mutation dans l'ontologie sociale du libéralisme. C'est-à-dire qu'on va passer, et c'est ma thèse, qui est peut-être polémique, mais enfin bon, à discuter, on va passer avec Rawls d'une ontologie, si vous voulez, territoriale ou spatiale, une ontologie sociale, donc territoriale ou spatiale, de l'individu, une conception de l'individu et de la société comme spatiaux, c'est-à-dire occupant un territoire, vers une conception que j'appellerais relationnelle ou communicationnelle. Et là, je trouve qu'il se rapproche vraiment, et il y a de bonnes raisons à cela, de la position de Habermas, avec l'idée justement du principe de réciprocité. Voilà. Et alors, je pense que ce qui est sous-jacent au débat sur la liberté négative et positive, c'est un débat non seulement sur la rationalité, mais aussi sur l'ontologie sociale. Quelle conception de l'individu, quelle conception de la société est-ce qu'on se fait ? Et là, Rawls a opéré une mutation qui est certainement compliquée, enfin, et pas toujours facile à accepter. Il s'est peut-être trop rapproché du holisme social, ou peut-être. Le débat, si vous voulez, est ouvert. Voilà. Alors. De combien de temps est-ce que je dispose? Voilà,
Environ 25 minutes.
D'accord. Alors, je vais passer assez rapidement. Donc, le premier point, je vais envisager trois points. Premier point, les rapports Berlin-Rawls. Deuxièmement, la priorité du juste sur le bien, qui est la question de la morale déontologique. Et troisièmement, la question de l'ontologie sociale. Alors, Rawls et Berlin. Alors, Rawls connaissait bien Berlin. Il avait étudié à Oxford, il avait séjourné à Oxford dans les années 50, où il avait étudié avec Herbert Hart, qui était un des grands amis de Berlin, bien sûr, et avec Stuart Hampshire. Donc il était dans le bain, si vous voulez, intellectuel, du pluralisme des valeurs, enfin, de toutes ces discussions avec Stuart Hampshire. Et il cite Berlin souvent à propos justement de la question du pluralisme. Ainsi, dans Social Unity and Primary Goods de 1982, il se réclame explicitement de lui et écrit « One deep division between conceptions of justice is whether they allow for a plurality of different and opposing and even incommensurable conceptions of the good, or whether they hold that there is but one conception of the good which is to be recognized by all persons so far as they are rational. » Donc, la critique du rationalisme moniste, elle est sous-jacente chez Rawls, hein, sans arrêt, bien sûr. Et il ajoute, ce qui caractérise le libéralisme de Locke, de Kant et Mill, c'est qu'il reconnaît comme une condition naturelle d'une culture démocratique libre le fait que ses citoyens poursuivent une pluralité de conception du bien. Donc, Rawls articule toujours, bien sûr, pluralisme et liberté. Liberté de choix, donc une avancée des sociétés libérales, c'est le pluralisme qui n'est pas du tout un destin fatal ou un élément négatif. Mais par contre, dans la section de théorie de la justice, où il discute de la question de la liberté, il prend immédiatement ses distances vis-à-vis de Berlin et il préfère en rester à la distinction classique. Liberté négative, c'est la liberté des modernes, c'est-à-dire la liberté personnelle, et la liberté positive serait la liberté des anciens, le droit à la participation politique, etc. Voilà. Donc, l'interprétation, d'ailleurs, c'est le texte de référence le plus important là-dessus, c'est le débat avec Habermas, puisque Habermas lui oppose une vision beaucoup plus traditionnelle du libéralisme, dans laquelle les libertés individuelles seraient les seules qui compteraient. Il y aurait une double source des libertés, vous vous souvenez du texte, dans le débat avec Habermas, voilà, qui est la bonne référence ici. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir à quel point les critiques de Rawls, les critiques réalistes de Rawls, se sont inspirées de Berlin pour et de l'analyse de la liberté négative, de la pluralité des fins humaines, pour accuser Rawls de succomber aux sirènes du rationalisme moniste. Il aurait, selon eux, il y a eu un excellent numéro de la revue European Journal of Political Theory récent sur les critiques réalistes à l'égard de Rawls, et il y a unanimité là-dessus, on voit très bien l'influence de Berlin. Rawls aurait proposé une théorie de la justice qui serait l'objet d'un accord unanime entre sujets rationnels. Et donc, c'est la description exacte par Berlin des adorateurs du temple de Zarathustra. Hein, je vous cite le texte de Berlin. Rational or free state would be a state governed by such laws as all rational men would freely accept. On this assumption, the problem of political liberty was solvable by establishing a just order that would give to each man all the freedom to which a rational being was entitled. C'est exactement la formulation des deux principes de justice de Rawls. Donc, il tombe exactement sous le label du temple de Zarathustra. Alors, encore une autre confusion, c'est extraordinaire, je dirais, chaque relecture de ce texte de Berlin fait émerger de nouvelles confusions. La distinction classique aussi, là encore, si on retourne vers le texte de Mill, dans Liberty, ou si on regarde les textes de T.H. Green, la distinction classique, c'est « freedom from » and « freedom to », bien sûr. Et c'est là qui est clair. On voit très bien que « freedom from », c'est pas la même chose que « freedom to », mais en même temps, les deux sont inséparables. Ça, c'est une distinction qui, conceptuellement, est relativement claire. Si tant est que les concepts politiques puissent être clairs. Alors, et là, Berlin suit tout à fait Mill. Freedom from interference by other human beings, bien sûr. Voilà l'ensemble des libertés personnelles. Et garantir l'espace de libre choix, de libre action maximale contre toute interférence abusive. Et freedom to be oneself. On a parlé, bien sûr, de self-mastery, etc. Mais là, les choix sont ouverts. Voilà. Et la distinction est claire. Or, ce que Berlin voit dans le Freedom to, c'est une voie unique. Il y aurait une seule manière d'utiliser de façon satisfaisante ce pouvoir d'agir que donne la liberté négative. Et voilà la source de tous les dangers. Donc, il oppose, bien sûr, l'argument du pluralisme des valeurs. Le monde auquel nous sommes confrontés dans notre expérience ordinaire, là je cite la traduction française, éloge de la liberté, nous oblige à effectuer des choix entre des fins également ultimes. Caractère tragique du choix, des exigences également absolues, la réalisation des unes entraînant inévitablement le sacrifice des autres. C'est précisément parce que telle est leur condition que les hommes attachent une si grande valeur à la liberté de choix. S'ils avaient l'assurance que dans un état parfait, susceptible d'être réalisé sur terre, les fins qu'ils poursuivent n'entreraient jamais en conflit, la nécessité et les affres du choix disparaîtraient avec elles. Elle disparaîtrait et avec elle l'importance cruciale de la liberté de choisir. Alors, à partir de cette présentation, trois critiques émergent. Alors, je ne dis pas que toutes soient explicites chez Rawls, mais enfin, on peut les construire. Les trois critiques principales, il y en a d'autres, hein, bien sûr, mais les trois critiques, c'est la première, si vous voulez, c'est bien sûr que Berlin ignore ou passe sous silence un élément crucial de la liberté des modernes, à savoir la priorité du juste sur le bien. Ça, c'est la première critique que je développerai. Deuxième critique, le pluralisme des valeurs ne constitue pas une défense satisfaisante de la liberté, puisque le pluralisme des valeurs est une thèse métaphysique, une thèse séduisante, convaincante, etc., qui implicitement porte la critique d'un rationalisme moniste, mais c'est une thèse, et ça ne peut pas représenter une défense de la liberté dans un monde pluraliste, justement. Il y a une auto-contradiction là. Donc, ça je reprendrai, cette critique a été formulée ou présentée bien sûr chez Rawls, mais aussi par Charles Larmor de façon très convaincante, quand Larmor, dans sa review de Political Liberalism, fait une distinction très pertinente entre l'existence de désaccords raisonnables, ce qui est la thèse rawlsienne, et le pluralisme des valeurs. Ce sont deux positions qui ne se confondent absolument pas. Le fait de l'existence de désaccords raisonnables n'est pas un argument à l'appui de la thèse métaphysique du pluralisme des valeurs, du pluralisme irréductible ou du caractère incommensurable des valeurs. Voilà, alors cette distinction est une critique bien sûr très forte de la position de Berlin. Et puis le troisième point que je vais développer davantage, c'est la faiblesse d'une défense purement négative des droits fondamentaux. Et l'effort de Rawls, c'est justement de produire une défense des droits fondamentaux, ce qu'on appelle les droits de l'homme, qui soit déconnectée d'une thèse métaphysique quelconque, qui soit déconnectée d'une culture historique ou d'un moment historique, sans tomber dans un universel abstrait. C'est une ambition très lourde. Et je vous citerai une phrase de Rawls qui malheureusement a été sautée dans la traduction française. Et c'est une citation extrêmement importante, à mon avis, que Bertrand Guillard m'a oubliée dans sa traduction du Law of People. Et c'est la façon dont Rawls défend justement les droits de l'homme. What have come to be called human rights are recognized as necessary conditions of any social system of cooperation. These rights do not depend on any particular comprehensive religious doctrine or philosophical doctrine of human nature. Ça, c'est page 68 de Law of Peoples, et paragraphe 8.3, et page 86 de la traduction, ça a été oublié. Or, c'est quand même crucial, c'est vraiment un moment crucial de l'argumentation de dire c'est la liberté négative, puisque c'est de ça qu'il s'agit, les droits fondamentaux de la personne ne sont pas des droits liés à un contexte culturel ou à un moment, etc. Ce sont les conditions nécessaires de la coopération, et donc ce que je vais développer, c'est de la communication, bien sûr. Alors, je voudrais, mais ça c'est bien connu, donc je ne vais pas développer, je voudrais rappeler le premier élément dans un dispositif donc de démantèlement de l'article de Berlin, qui est le rappel de la distinction entre le juste et le bien. Alors malheureusement, vous le savez, ce sont des termes intraduisibles, avec lesquels je me bats depuis plus de 20 ans, absolument intraduisibles en français, puisque « the right », c'est le bien sûr, le bien et le mal. Et en même temps, the good, c'est le bien, mais c'est au sens du bon. Donc, si vous voulez, en fait, le texte anglais, si on traduisait l'expression anglaise, si elle était traduite littéralement, ça serait la priorité du bien sur le bien, ou la priorité du bien sur le bon. Ça serait la traduction correcte, parce que le just, là, c'est une invention du français. Donc, bon, diabolique, là. Alors, donc ça c'est la réponse proprement philosophique de Rawls au texte de Berlin. Si convaincante que soit la plaidoirie de Berlin, il passe sous silence un élément crucial de la défense de la liberté, qui pourtant découle d'ailleurs de l'affirmation de la pluralité des fins humaines, la disjonction tout d'abord entre le juste et le bien, the right and the good. Si les fins humaines sont incommensurables, Il en découle que la liberté de chacun de choisir ses fins ne peut de manière légitime être soumise à la domination d'une fin unique ou supérieure, que ce soit le bien-être, la prospérité, etc., etc. Donc, si vous voulez, il y a un lien, bien sûr, entre la conception du bien comme posée par l'être humain, et non pas par une divinité ou une raison supérieure ou un philosophe roi, tout ce que vous voudrez, mais cette reconnaissance de la priorité de la liberté, bien sûr, est fondatrice de la distinction entre le juste et le bien, puisque c'est vraiment la marque de la pensée des modernes. Donc le point de départ de Rawls, vous le savez, c'est la disjonction entre le juste et le bien, à partir de Kant, enfin de Rousseau et de Kant, qui caractérise toute la pensée des modernes. Alors, cette distinction, c'est la distinction entre les deux aspects de la vie éthique, c'est-à-dire l'aspect du désirable, ce qui est souhaitable, ce qui est de l'ordre des finalités, donc les fins, le good, et ce qui est de l'ordre de la norme, de la coercition ou de la limitation. Ça peut être une auto-limitation ou limitation par la loi, c'est la question que vous posiez tout à l'heure sur la nature de l'interférence. Est-ce que c'est l'interférence par la loi, par une force extérieure ou une force intérieure? C'est ce que Bentham appelait aussi des sanctions. Hein. Voilà, donc ça c'est le domaine de la norme et de la limitation du pouvoir et de la puissance individuelle. Voilà. Alors, vous trouverez ce genre d'analyse, bien sûr, chez Habermas. Hein, ça se trouve dans le texte sur le débat avec Rawls. Hein, il y a quelques pages là sur la distinction entre normes et fins, hein, normes et valeurs, qui est très utile. Eh bien, je dirais que la distinction entre liberté négative et liberté positive correspond bien entendu à la distinction entre le juste et le bon, bien sûr. Puisque la liberté négative concerne le domaine de la réalisation des fins individuelles, la vie bonne, et la liberté négative protège, si vous voulez, la possibilité pour l'individu de mener une vie bonne selon ses choix, à condition que ça ne nuise pas aux autres, harm principle, et la liberté positive correspond bien entendu au juste, c'est-à-dire l'imposition de limites qui rendent compossibles toutes ces libertés individuelles. Alors, que ces limites soient celles de la loi, qu'elles soient celles des institutions politiques, qu'elles soient celles des conditions socio-économiques qui vont dévaloriser la liberté individuelle, la liberté négative, hein, c'est le value of liberty qui est un concept tellement important. Voilà donc la distinction, comment elle peut s'opérer dans l'architecture rawlsienne. Voilà. Donc, ce qui va nous préoccuper, c'est d'articuler ces deux dimensions et d'établir la priorité du juste sur le bon. C'est-à-dire que le bien ou le bon, pardon, excusez-moi, the good, ne peut être l'objet d'une quête digne de valeur par les individus que s'ils sont effectivement dans des institutions ou s'ils sont dans une structure sociale qui le rende possible. Voilà. Donc, bien sûr, chez Rawls, la deuxième partie, c'est-à-dire le juste, est une condition, hein, ce qu'il appelle le sens de la justice, est une condition de la réalisation des fins. Donc, la priorité du juste sur le bon concrétise la priorité de la liberté, c'est-à-dire que la liberté n'est plus simplement un rêve individuel ou une aspiration individuelle sans contenu, mais devient une réalité. Voilà. Alors, le point intéressant, la réponse à Berlin maintenant apparaît, la possibilité d'un accord sur le juste est déconnectée de la possibilité d'un accord sur les fins. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout, il n'est pas question de comprendre l'accord sur une conception publique de la justice, comme dit Rawls, sur le mode de l'accord sur une conception dominante du bien. Si vous n'avez pas fait cette disjonction, bien sûr, vous sortez du libéralisme. Le libéralisme suppose cette disjonction, à savoir qu'un accord sur une conception publique de la justice n'a pas du tout les mêmes bases ni les mêmes conditions qu'un accord sur une conception du bien. Voilà. Alors, je développe maintenant le point qui m'intéresse le plus. Il me reste
10 minutes.
10 minutes, bon. Alors, c'est le point que je voudrais développer maintenant. Quelle solution, si vous voulez, quelle ontologie sociale sous-tend la priorité du juste sur le bien? C'est-à-dire, cette possibilité, ce que je viens de dire à l'instant, cette possibilité d'un accord sur une conception publique de la justice qui ne prive pas les individus de liberté de choix. Parce que c'est ça l'objection majeure, si vous voulez, l'objection majeure à la théorie de la justice, c'est de dire l'accord sur l'unanimité sur des principes de justice signifie finalement une sorte de monisme, une soumission à la raison moniste, etc. Et donc à rejeter par des libéraux purs et durs. Bon. Eh bien, comment montrer, si vous voulez, comment démontrer qu'un accord sur une conception publique de la justice n'est pas de même nature qu'un accord sur une conception du bien? Ce que je propose maintenant, c'est de regarder cette possibilité du côté d'une ontologie sociale. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à concevoir un type d'accord différent de celui de l'unanimité de croyance, si vous voulez, autour de, je sais pas, l'idéal républicain ou l'Immaculée Conception, etc. Vous voyez, une unanimité de croyance par rapport à une unanimité sur des principes de justice ou une conception publique de la justice. Où se trouve la différence? Tout est là. Et un grand nombre de contresens, si vous voulez, sur la théorie de la justice, sur ce que Rawls veut faire, viennent de là. Et je reconnais qu'il n'a jamais été très explicite sur ce point. Le texte que j'utiliserai ici, c'est « The Idea of Public Reason Revisited », parce que c'est là que je pense que les choses sont clarifiées. Alors, je dirais que l'ontologie sociale vers laquelle Rawls se dirige, et ça n'est pas clair, hein, ça n'est pas straightforward, c'est une ontologie donc qui ne soit plus territoriale. L'ontologie libérale classique est territoriale. Aussi bien l'individu que la société sont définis en termes de territoire, d'espace. Chez Locke, bien sûr, puisque c'est la propriété de soi qui est le concept fondamental, et le droit de propriété qui est au cœur du dispositif, lié non seulement, bien sûr, à la propriété matérielle, mais, ça j'y ai insisté dans mon livre sur le libéralisme, à la religion, puisque c'est l'espace privé qui doit être absolument protégé pour permettre l'exercice du culte religieux, ce que le culte protestant, à l'époque, se pratiquait à la maison. Donc, ce caractère sacré de l'espace privé est à comprendre en termes religieux, bien sûr. Bon, et chez Mill, bien sûr, ça continue, protection, freedom from, un espace privé à protéger, des frontières, un territoire privé à protéger. Voir la critique de Sedgwick qui dit c'est impossible, c'est un mythe, enfin, il n'y a pas d'espace privé, nous sommes sans cesse en interaction. Et Berlin continue tout à fait cette logique de la sphère privée de non-interférence, cette conception défensive de l'espace privé. Et vous trouvez ça bien sûr chez les libertariens, chez Nozick, puisque toute interférence avec cette sphère privée revient à un vol, peut-être même à un viol. Vous voyez la force de l'argumentation qui est très, très persuasive. Enfin, c'est une image très forte à laquelle tout le monde peut réagir. Moi, je pense pour cette logique territoriale me fait penser à un conte d'Edgar Poe, mais j'ai oublié le titre, dans lequel le personnage est prisonnier et les murailles se rapprochent de plus en plus de lui. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce conte d'Edgar Poe, j'ai oublié le titre, mais c'est vraiment une image d'horreur dans laquelle les murailles, il y a eu certainement des films d'horreur avec ce même thème, et c'est pour ça que la métaphore est tellement forte de l'espace qui se réduit de plus en plus, et la prison, finalement, c'est la métaphore par excellence. Alors, Rawls, lui aussi, parle de l'inviolabilité de la personne, de la nécessité de distinguer entre la sphère publique et alors là, le point intéressant, la sphère non publique. Rawls ne parle jamais de sphère privée. Et ça, je crois que c'est le point décisif. Alors pourquoi ? Il ne parle jamais de sphère privée. Il ne compte pas le droit de propriété privée parmi les droits fondamentaux. Dans la liste des droits fondamentaux, le droit de propriété n'apparaît pas. Il dit aussi, bien sûr, qu'il n'y a pas de raison privée. Et je ne sais pas si vous connaissez son texte sur le vote, en disant que le vote n'est pas un geste privé. Mais qu'il y a... Bon. Alors, pourquoi ? Eh bien, c'est ça qui m'a intéressée. Je pense que ici, la position rawlsienne est une position wittgensteinienne. C'est-à-dire que ça tourne autour de la conception de la rationalité, de la raison. La position de Rawls qu'on peut inférer de ses analyses est une ontologie sociale relationnelle et wittgensteinienne dont le modèle est linguistique. C'est le anti-private, private language argument. Il n'y a pas de langage privé. À partir du moment où nous sommes capables d'énoncer les fins que nous recherchons, etc., ces fins doivent pouvoir être communicables. Tant qu'elles restent dans la sphère, justement, interne du groupe, par exemple, ces croyances, ces convictions, ces fins sont incommunicables. Mais elles peuvent potentiellement être traduites pour les autres groupes qui composent l'univers social. Donc vous voyez une conception de l'univers social et du rapport de l'individu à la société qui est relationnelle, qui est basée sur le modèle de la communication. Alors Rawls parle surtout de coopération, puisque sa définition de l'idéal de la société bien ordonnée, c'est une société de coopération équitable. Mais n'oubliez pas l'importance de la publicité. La communicabilité, la publicité des fins vont les transformer. Et voilà mon argument. Mon argument, c'est que l'utilisation que Rawls fait des métaphores linguistiques, il cite Chomsky à un moment donné, et sa référence à Nelson Goodman est très intéressante, son utilisation des métaphores linguistiques doit nous orienter, si vous voulez, vers une ontologie sociale de la communication et de la relation entre individus et société, et non pas du tout d'un espace. Alors, j'ajouterai à cela qu'on peut passer de la métaphore, si vous voulez, de spatiale à la métaphore relationnelle, si on se rend compte que l'ontologie sociale, pour la théorie politique, doit être normative et non pas descriptive. C'est une ontologie. La distinction, si vous voulez, espace non public, espace public, est une distinction normative, ça n'est pas une distinction empirique. Bien entendu, et là, Sedgwick avait tout à fait raison, sur le plan empirique, il est impossible de trouver une essence pure de l'individualité protégée entièrement de l'interférence sociale. Ça n'a aucun sens. Mais si on voit, et ça c'est le deuxième aspect du raisonnement, si on voit que la distinction du public et du non-public est une distinction normative, et non pas descriptive et empirique, là les choses prennent un sens pour se détacher de cette conception territoriale de l'individu et de la société. Sur le plan empirique, il n'existe pas de sphère privée, ça ne veut rien dire, totalement à l'abri du déterminisme social, sauf dans le mythe de l'état de nature, mais justement, c'est un autre paradigme qui est rejeté. Donc c'est une distinction normative entre des types d'agents. Le comportement de l'individu dans la sphère publique n'est pas le comportement de l'individu dans la sphère non publique. Des comportements d'agents et des arguments, des types d'arguments, des types de langage. C'est-à-dire que le langage utilisé dans la sphère non publique n'est pas le langage utilisé dans la sphère publique. Et c'est ça, si vous voulez, qui constitue ce qu'on appelle l'individu et la société. Je dis les choses de façon très schématique, certainement trop simpliste, mais la sphère politique dans la sphère publique doit demeurer distincte de la sphère non publique, mais elle ne l'est pas. Elle doit le demeurer, et c'est là que joue l'intervention, bien sûr, des institutions, de la loi, de l'État juste, etc., de l'ordre politique. Donc, Alors l'exemple que je prends, qui me paraît très, très pertinent pour illustrer cette ontologie relationnelle, c'est l'exemple de l'évolution des British Muslims en Angleterre. Il y a eu une évolution très intéressante depuis l'affaire Rushdie, donc, la prise de conscience par les communautés musulmanes en Angleterre d'une nécessité de s'identifier comme groupe et de se défendre, donc de se constituer en groupe visible. Donc l'émergence de la visibilité de l'islam en Angleterre au moment de l'affaire Rushdie, au moment des cartoons, vous vous souvenez de l'histoire avec, dans les journaux au Danemark, l'évolution est très intéressante. C'est-à-dire qu'on voit un groupe qui se constitue une identité publique. Progressivement. Et comment? Alors, la première étape a été d'utiliser l'argument de l'apostasie en disant « Salman Rushdie est un apostat, donc il mérite la fatwa, etc. etc. » Et vous imaginez que ce discours a été très mal reçu par l'opinion publique en Grande-Bretagne, bien entendu. Ensuite, ils ont utilisé l'argument du blasphème. Et très mal reçu, bien qu'il y ait une loi, que dans la législation britannique, il y ait une loi concernant le blasphème, hein, qui est un reste de, très ancien. Et puis, l'évolution les a conduits vers l'usage de raison publique. Et cette raison publique qu'ils ont utilisée à leur avantage a été le modèle de la législation qui existe pour l'Irlande du Nord concernant l'incitation à la haine religieuse. Sur le modèle de l'incitation à la haine raciale. Et en 2006, une loi a été votée, très importante, enfin, qui n'est pas complètement implemented, je ne sais pas comment dire en français, et qui mérite beaucoup d'amélioration. Mais cette loi de 2006 protège les communautés musulmanes contre l'incitation à la haine religieuse sur le modèle des conflits religieux en Irlande du Nord. Et à ce moment-là, bien sûr, Ils ont réussi à obtenir la législation qui protégeait leur liberté négative, c'est-à-dire leur liberté de pratiquer leur religion sans interférence abusive ou illégitime. Et c'est très très intéressant de suivre ce changement de langage, ce passage de raison non publique à destination interne pour le groupe, mais absolument incompréhensible à l'extérieur. Et au contraire, l'utilisation d'un langage public, alors qu'il n'est pas du tout neutre, hein, parce que la neutralité de l'État, là, me paraît très problématique, mais un langage public, c'est-à-dire communicable et compréhensible, et qui permet un système, comme dit Rose, de coopération équitable, c'est-à-dire que les musulmans britanniques se sentent mieux protégés, se sentent dans une relation plus équitable. Et en particulier, une conséquence que Tariq Madoud, qui a beaucoup étudié toutes ces questions, note, c'est que après, dans les derniers événements de manifestations anti-islam, les journaux britanniques n'ont pas du tout mis de l'huile sur le feu, ont été beaucoup plus modérés qu'un peu partout en Europe, parce qu'il y avait la loi. La loi de 2006 était quand même un frein très efficace à l'expression d'opinions anti-islamiques très fortes, alors que les sentiments existent dans la population. Donc vous voyez l'ontologie sociale qui se dessine, hein, des groupes qui gardent leur identité, donc pluralité des valeurs, pluralité des fins, mais qui peuvent se parler. Hein, donc c'est bien la raison communicationnelle au sens de Habermas qui est à l'arrière-plan. Et la révolution linguistique, dont Rawls bien sûr a été un héritier, bien sûr, hein, de la philosophie linguistique, se trouve à l'œuvre ici. Il n'y a pas de langage privé, il n'y a pas de raison privée. Dès que l'on veut parler aux autres, eh bien, il faut trouver un langage qui soit compréhensible, non pas universellement compréhensible, mais par recoupement, comme dit Rose. Il y a là une possibilité donc de consensus ou d'unanimité qui n'est pas une unanimité moniste, si vous voulez, qui n'est pas une unanimité sur des fins. Et voilà, si vous voulez, comment on pourrait caractériser la différence entre un consensus sur des fins et sur une fin dominante et un consensus sur une conception publique de la justice. Alors, les deux branches, je n'ai pas développé, bien sûr, ça demanderait beaucoup trop de temps, mais les deux branches de l'ontologie sociale rawlsienne, à savoir l'idée de la société comme système de coopération équitable et l'idée de l'individu comme capable d'un sens de la justice, à côté d'une capacité pour une conception du bien, eh bien, ces deux branches sont une réponse à la disjonction entre liberté négative et liberté positive, puisque dans les deux branches, on voit bien que il s'agit de comprendre le rapport de l'individu à l'autre, non pas comme un rapport territorial, mais comme un rapport de communication ou de non-communication. Et donc, quand on parle de liberté positive, on parle simplement de l'ouverture de voies de communication entre les différents individus ou les différents groupes qui composent l'ensemble du corps politique, et non pas simplement une juxtaposition d'atomes qui seraient en conflit ou en se heurteraient les uns les autres ou demanderaient des murs pour se protéger les uns des autres. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup. Bien. Merci beaucoup pour cet exposé qui remettait comme ça aussi pas mal d'idées reçues sur Rawls en question. Et on va commencer tout de suite peut-être par ouvrir la séquence de questions. Est-ce que quelqu'un veut commencer ? Marie ?
Articuler la différence entre les deux types d'accords ou de désaccords en parlant d'une raison procédurale d'un côté et d'une raison substantielle de l'autre. Et en fait, Berlin semble souvenir qu'une raison purement procédurale, c'est une impossibilité, enfin, d'une certaine façon. Cet usage procédural de la raison est condamné à véhiculer en réalité des valeurs et à se s'aborder en raison substantielle nécessairement. Alors qu'évidemment, Rawls, c'est en quantien, un titre très bien de la distinction entre les deux.
Oui. C'est une très bonne question, merci. Alors tout d'abord, cette distinction raison procédurale, raison substantielle est problématique. Elle n'est jamais tranchée, disons plutôt une conception pluraliste et modeste et délibérative, etc., puis une conception hégémonique, moniste de l'autre plutôt. Alors procédural chez Rawls, ça a été très mal compris le terme, parce qu'il le dit lui-même, l'usage de la raison, bien sûr, véhicule des valeurs. Juste les valeurs que j'ai indiquées tout à l'instant, les valeurs de communication, de coopération, de transcender les frontières entre groupes et cultures, etc. C'est évident que une raison procédurale pure n'a aucun sens. Bon, le débat Rawls-Habermas là est très faussé. Hein, ils échangent à ce propos et c'est très très confus. Tout ce qu'on peut faire, c'est... Voilà. La réponse à votre question serait, est-ce qu'on peut distinguer clairement entre croyance et argument ? Voilà. Alors évidemment, quand je transforme mes croyances en arguments, j'ai foi dans la possibilité de communiquer avec vous. Donc c'est un pari, bien sûr, hein, c'est un pari très, très riche de finalité. Je suppose que la coopération, ça vaut mieux que la distinction ami-ennemi de Carl Schmitt, si vous voulez, pour dire les choses brutalement. Voilà. Donc je fais un pari sur la possibilité de communication, mais je sais que cette communication ne sera jamais parfaite, ne sera jamais hégémonique, elle ne sera jamais dominante. Ça sera toujours une dynamique, hein, un processus. Voilà. Alors, raison procédurale, si vous la comprenez au sens de sans arrêt un effort d'argumentation, de raisonnement avec l'autre, un effort de publicité, bien sûr, hein, pour que les choses soient publiques et donc compréhensibles publiquement, etc. Oui. Raison substantielle, les valeurs de la raison, elles sont là, c'est des valeurs de l'argumentation, des valeurs d'un raisonnement, dépassement du principe de contradiction, etc., la valeur de l'inférence, bien sûr.
Oui, substantielle, je pensais à un sens plus chargé que ça, mais
relativement,
bien sûr.
Oui, substantielle.
l'influence.
Les raisons procédurales, c'est même plutôt la raison critique kantienne, en fait.
Mais Rawls est kantien, mais à sa manière, hein, quand même. Il est aussi très... comment dire, il est toujours dans le contexte historique, hein, il est quand même très contextualiste aussi, hein, donc c'est un peu difficile, voilà. Non, c'est une bonne question, et c'est l'objection, c'est pour ça que j'ai cité ce passage sur les droits de l'homme, parce que, je veux dire, c'est quand même là qu'il dit le plus explicitement que la raison procédurale permettrait d'arriver à un accord sur ce que sont les droits de l'homme, indépendant du contexte culturel, historique, voilà, de l'impérialisme américain ou autre. Voilà.
D'autres questions ? François Hudon ?
Oui, merci pour cet exposé très stimulant. J'ai plusieurs questions, mais je vais me concentrer sur votre thèse principale sur l'anthropologie sociale. Je suis pas sûr de tout à fait bien comprendre la différence entre une approche plus spatiale ou territoriale de l'ontologie et l'approche relationnelle, parce que j'ai l'impression que même dans cette approche rawlsienne de l'ontologie sociale, ce qu'on on défend, ce n'est pas tant un modèle totalement différent qu'une version beaucoup plus flexible et normative d'une conception qui reste territoriale ou spatiale. Quand les musulmans britanniques changent leur discours pour devenir audibles, à la fin, ils obtiennent un nouvel espace quand même qui est protégé. Oui. Et donc, je pense que j'ai besoin de clarification sur qu'est-ce que vous voulez exactement opposer quand vous présentez un modèle relationnel ou communicationnel.
Bon, alors je vais être obligée de battre toutes mes cartes. Non, je suis absolument d'accord que les deux se trouvent et les deux doivent se trouver, bien sûr, dans toute défense de la liberté. Et il y a le côté empirique de l'espace physique privé, bon, bien sûr. Ce que j'essaye de faire, mais je ne sais pas si j'y arrive, hein, mais c'est de changer les termes du débat. Du déterminisme social, pour dire les choses massivement. Voilà. Est-ce que dans la position que j'ai indiquée, dans l'ontologie sociale que j'ai indiquée, est-ce qu'on ne va pas changer la conception qu'on se fait du déterminisme ? Bon. Rawls est très ambigu, puisqu'il emploie un vocabulaire marxiste, il parle de structure de base de la société. Hein, c'est vraiment. On est tout à fait dans la conception territoriale, marxiste ou autre, enfin, ou libérale, hein, parce que les deux emploient ce même langage, de représentation spatiale de la liberté et de la causalité. Voilà, moi ce que je cherche, si vous voulez, parce que je crois que c'est là où le libéralisme a réussi quelque chose, c'est à sortir de l'impasse. Déterminisme social ou liberté radicale. Voilà.
Parce que j'avais l'impression de voir un parallèle un peu avec votre défense et la réplique qu'on a pu faire aux critiques communautariennes. En fait, de dire que Rawls conçoit l'individu comme un atome et alors que.
Tout à fait.
Parce que
tout à fait.
Très parallèle.
Tout à fait, tout à fait.
C'était. Il n'y a pas vraiment de conception. C'est-à-dire de voir la liberté comme. Les libertés négatives associées à une sphère protégée,
exactement.
Fixe, c'est de ne pas comprendre à quel point, en fait, il y a des espaces qui s'entremêlent, des espaces privés ou non publics qui s'entremêlent.
Voilà, tout à fait. Et Rawls est toujours très abstrait, très pauvre, hein, dans ses analyses, mais il dit la société bien ordonnée n'est ni une association ni une communauté. Mais ça ne veut pas du tout dire qu'elle soit faite d'atomes en mouvement brownien qui s'entrechoquent, etc. Voilà. Donc, ce que j'essaie de faire, j'abats mes cartes, effectivement, c'est de répondre aux communautariens et aussi de trouver un autre mode de relation que celui d'une causalité élémentaire, si vous voulez, brutale. Oui.
Oui, merci. Du coup, je me permettrais peut-être de rebondir et d'ajouter un point, parce que moi j'avais, alors c'est pas la même interprétation, j'avais l'impression qu'il y avait aussi potentiellement une réponse à des critiques non pas communes, pas évidemment communautariennes, là je comprends la réponse, mais aussi des critiques certaines critiques féministes, par exemple, qui ont beaucoup objecté à Rawls une compréhension de qui ont reproché de reconduire une compréhension trop rigide, justement, de la séparation entre des espaces publics,
tout
privés. Et que, du coup, dans votre interprétation, ça rend beaucoup plus fluide, finalement, ces démarcations, et que ça constitue une sorte de réponse
aux critiques féministes, absolument, sur la séparation entre l'espace domestique et l'espace public et politique. Et la thèse féministe, à savoir que la maison est un lieu de conflit politique, bien sûr. La vie domestique est traversée de conflits de pouvoir et de conflits politiques, et qu'il y a une justice qui doit s'exercer dans la sphère. Mais la sphère domestique n'est pas la sphère privée, si vous voulez, là aussi, parce que la capacité d'énoncer ce qui se passe, hein, cette violence ou ces injustices qui sont commises, etc., elle existe. Elle existe. Donc, nommer, si vous voulez, voilà la solution.
D'accord. D'autres questions, peut-être ?
Oui.
Donc, si je comprends bien, c'est une façon de dire que c'est pas tant qu'il faut gouverner ou régir des espaces, mais des relations. Et ces relations, évidemment, se trouvent aussi dans des espaces, mais...
Tout à fait.
Autant... Et donc, ma question, ce serait, est-ce qu'il y a donc des relations qui se trouvent à l'extérieur? Forcément, j'imagine que, comme on a une distinction normative du public et du non-public, et qu'on comprend ça de manière relationnelle, il va y avoir des relations qu'on juge, qu'elles soient dans la sphère domestique ou ailleurs, qui sont sous la gouverne des principes de la justice, par exemple,
oui.
Alors que d'autres relations sont un peu... Et donc, est-ce que ça veut dire aussi que certaines relations ne sont pas... On ne peut pas parler de ces relations en termes de liberté?
Non, c'est pas tout à fait ça. Ce que je veux dire, c'est que les éléments de justification, c'est pas descriptif, c'est au niveau de la justification.
D'accord.
Hein, voilà.
D'accord.
Parce que là, vous retombez sur le descriptif quand vous dites il y a des relations qui vont être... Non, c'est pas ça. Restons dans le domaine de la justification. Le type de justification pour obtenir justement la liberté positive, hein, un changement de législation, une protection, une mise en place de lois, etc., la justification doit être publique. Voilà. Vous ne pouvez pas en rester au niveau non public. Et ça suppose une certaine conception de l'individu et une certaine conception de la société de dire ça. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai voulu dire. Hein. Je ne suis pas sur le plan descriptif, sociologique, empirique. Par exemple, d'ailleurs ça, vous voyez bien que toutes sortes de phénomènes qui appartenaient soi-disant à la vie privée, hein, qui étaient bien cachés derrière les murs, maintenant sont exposés. Enfin, tout ce qui concerne le traitement des enfants, l'inceste, etc., tout ça est devenu public. Il y a des raisons publiques pour demander une législation, etc. Ça s'est complètement transformé. Ça prouve que les choses ne sont pas du tout inscrites dans la pierre. Hein. C'est ça? Oui.
Bien, merci beaucoup. Merci encore une fois pour cet exposé véritablement très riche. Donc, on aura sans doute aussi l'occasion d'en rediscuter tout au long de la journée, également dans les espaces de pause. Alors, du coup, là, je propose qu'on fasse... 10 minutes de pause, c'est ça, puisqu'on avait commencé avec le retard académique classique, donc on est un petit peu en retard, mais on peut quand même peut-être prendre 10 minutes de pause.